Alors, pour cette 16e de Radio Barque, Marie Zarditi, que l'on ne présente plus, en tout cas lorsqu'on s'intéresse à l'écologie, comme vient de le rappeler Michel avant la pause, Marie Zarditi, je crois que ça fait une 3 décennies au minimum que vous êtes à la fois dans le militantisme écologique. Rappelons que vous avez une formation scientifique qui vous a peut-être aussi et même certainement aidé à y voir clair dans ce domaine-là. En plus du militantisme, vous avez aussi une certaine expérience de l'exécutif, puisque vous avez participé au pouvoir, par exemple, dans la région avec Georges Frêche. Donc ce militantisme accumulé fait qu'aujourd'hui, on aimerait avoir votre point de vue sur, justement, Orano, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde va mourir demain matin? Voilà la raison pour laquelle nous vous remercions d'être venu à ce micro aujourd'hui, essayer de nous éclairer. On va peut-être commencer quand même, avant d'aller sur Orano, qui est le gros morceau, sur Lafarge. On l'a évoqué tout à l'heure, la cimenterie Lafarge. Qu'en est-il aujourd'hui, à part la nouvelle?
Eh bien, Lafarge...
ça pollue.
A eu pas, elle a une autorisation. Ouais. Une autorisation, et une autorisation, ça fait beaucoup, 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 évidemment, d'oxyde de nitrates. Mais surtout, en ce moment, si vous voulez, comme Lafarge fait une démarche positive qui consiste à remplacer le charbon, le pétrole, que sais-je, etc., par des déchets, de temps en temps, il peut y avoir des émanations qui n'étaient pas prévues, ou qui sont, etc. Et là, ça fait quand même plusieurs fois que Lafarge dépasse les rejets qu'il y a dans son arrêté préfectoral. Voilà. Il faut aller regarder de plus près.
Oui, oui. Voilà. Donc il y a un problème. Et
c'est quelque chose qui émerge.
Et c'est quelque chose qui est suivi au niveau État et au niveau préfectoral, par exemple.
Oui, voilà. On l'a vu en Coderst récemment.
Voilà, le Coderst étant une réunion départementale.
Une réunion départementale, le comité départemental de l'environnement et des risques technologiques.
Oui, voilà. Bon, donc, alors, c'est pour l'avenir, on reviendra probablement un jour là-dessus. Mais aujourd'hui...
À Orano, je voudrais juste relever un élément, parce que c'est quand même un des éléments assez nouveaux qui a émergé. C'est la dose qui fait le poison, c'est historique depuis très très longtemps, et c'est mis en défaut par un seul type de produit aujourd'hui, qui sont les perturbateurs endocriniens. Où ce n'est plus la dose qui fait le poisson.
Oui.
Parce que, comme il s'agit des systèmes qui influent sur les systèmes hormonaux, qui eux-mêmes sont à très très faible dose, c'est plus du tout la dose qui fait le poisson. Là, on est vraiment sur des endroits beaucoup plus dangereux, où c'est, par exemple, pour une femme enceinte, c'est la période précise de 3 semaines, 1 mois très importante, dans lesquelles, si elle se fait plutôt prendre à cette période-là, il peut y avoir des risques importants. De même qu'on a aujourd'hui les conséquences réelles, historiques, si vous voulez, sur un certain nombre de choses qui se mesurent, en particulier la qualité du sperme des messieurs, qui est fortement dégradée depuis 50 ans dans tous les pays. Voilà, donc ça, c'est un élément auquel il faut être très attentif, parce que l'Europe a freiné des quatre fers, la pression des lobbies là-dessus a été phénoménale, et on sait pourtant que là, il y a un élément très important et qu'il faut regarder de très très près, parce que comme il est un peu, il est émergent depuis 50 ans, mais il est vraiment émergent que depuis une dizaine d'années, il va falloir aller regarder de très près.
Oui, alors ça, ça risque, ça reste un des sujets pour l'avenir grave, on peut dire. Oui. Michel.
Et pour nos auditeurs, peut-être les perturbateurs endocriniens, Marie Zarditi, qu'est-ce que c'est précisément?
Alors, qu'est-ce que c'est? L'endocrine, c'est les glandes qui produisent les hormones, les types d'hormones, et donc ces glandes.
C'est-à-dire le fonctionnement.
Le fonctionnement général du corps dans sa partie hormonale. Et en fait, ces produits, ils miment. Ils ont un truc un peu mimétique et ils miment certaines hormones, donc ils peuvent perturber. Par exemple, les premières expériences qu'on a là-dessus, c'était les poissons dans les lacs américains qui changeaient de sexe. Oui, parce que dans les lacs américains, là-bas, il y avait une décharge absolument phénoménale, donc il y avait tout, y compris plein de perturbateurs endocriniens. Et on a commencé à voir que des choses un peu bizarres dans l'environnement avant même qu'on s'intéresse à l'aspect humain.
Ce sont des molécules
qui, dans certains aspects, miment les systèmes hormonaux. C'est pour ça qu'il est qui peut interagir à très faible dose, parce que le système hormonal, ça se compte en nanogrammes, pas en microgrammes.
Quoi. Bon, ben vous avez raison d'insister justement sur ce éclairage. C'est peut-être un des problèmes de l'avenir à surveiller d'autant plus près. Mais revenons quand même sur Orano, parce que Orano Malvézy, c'est à Malvézy, c'est sur la commune de Narbonne. Et alors, il y a bien entendu des gens qui sont contre, Michel l'a dit tout à l'heure, de façon parfois un petit peu excessive, mais il y a véritablement un problème, d'autant plus qu'on a un mal fou à s'y retrouver, nous les citoyens moyens qui ne sont pas des scientifiques. Le maire de Narbonne avait tenté il y a quelques semaines une explication pour les élus et pour le public en faisant venir à la fois le directeur d'Orano, M. Jolivet, et un opposant notoire, M. Bory, pour Rue Brésus. Ça a mal tourné parce que ça a été la foire d'empoigne et finalement on est sorti sans y comprendre quoi que ce soit de mieux. Alors aujourd'hui, il existe par exemple un observatoire d'Orano Malvézy qui rend un certain nombre de conclusions. Il l'a fait récemment. Vous les avez regardées forcément et forcément vous y avez compris quelque chose. Alors, quel est votre bilan, Marie Zarditi?
Alors, je les ai plus que regardées parce que cet observatoire, je le co-préside avec le sous-préfet.
Vous l'avez voulu aussi. Hein.
Comment ?
Vous l'avez voulu.
Oui,
je l'ai voulu. Non, le préfet m'a suggéré à un moment donné, dans une réunion, que ce ne soit pas l'État tout seul qui préside un truc comme ça pour lui donner une. Et qu'il me proposait de le co-présider. Bon, j'ai mis un temps de réflexion.
Oui, grosse responsabilité quand même.
Donc j'ai mis un temps de réflexion. J'ai demandé autour de moi ce que les gens en pensaient, parce que bon, je voyais bien les risques. Et en même temps. On demande tellement souvent d'avoir des informations que je me suis dit, si on n'y va pas et qu'après on n'est pas content du boulot, on dira, ben t'avais qu'à y aller. Voilà. Donc j'ai dit, après tout, j'y vais. Si à un moment donné on n'est pas content, on s'en va. Et on le dit. Donc voilà. Donc effectivement, on a donc regardé ce. Alors, la démarche qu'on a eue, elle a été de se dire, bon, on démarre. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est un historique des rejets dans l'air. Et un historique des rejets dans l'eau. C'est-à-dire, pourquoi un historique? Pour voir un peu comment ça a bougé depuis quelques
temps. L'évolution. Voilà.
Voilà, les évolutions. La question d'après, on s'est dit, ce qui est important, c'est de savoir finalement, qu'est-ce qui reste comme trace dans l'environnement? Alors là, sur cette troisième question, on a été un peu scotché, parce qu'on a dit à Orano, qu'est-ce que vous avez comme mesure là-dessus? Et ils nous ont sorti un dossier de 200 pages dans lequel il y avait des dizaines de milliers de mesures. Alors.
Oui,
bras coulés.
Bon. Difficile à
surprendre. Donc on a commencé à se dire, bon, on va faire une première approche. La première approche, c'était on va regarder les puits des voisins, parce que l'eau des puits des voisins, ça peut être intéressant. Voilà. Et puis, on a essayé de regarder si on avait, dans des zones un peu lointaines, allant jusqu'au bout de l'étang de Bages, est-ce qu'il y avait des traces de quelque chose pour voir un peu ce qu'il y avait. Voilà. Donc, le premier... Alors, la chose que j'ai demandé, et elle est réelle, c'est que les diapos qui retracent l'ensemble de ce travail sont aujourd'hui en ligne sur le site de notre association. Moi, j'ai demandé l'autorisation de
l'État. Éclat, donc.
Hein, oui, sur le site d'Éclat. Et je crois que la préfecture l'a mis aussi en ligne sur le site de la Dréal. Enfin, je ne suis pas sûr. Il m'a dit qu'il le mettrait. Voilà. J'ai tout de suite dit, c'est un document qui a mission d'informer. Moi, il doit être en ligne rapidement. Alors, je vais... très bientôt, mettre un complément d'explication. Parce qu'une diapo brute, même si on a essayé de les faire, c'est un peu dur à réaliser.
L'éternel problème pour nous, les citoyens.
Ça se lit, mais on ne voit pas très bien ce qu'il faut en dire. Donc, j'ai déjà commencé à rédiger. On va rajouter sur le site un commentaire, je dirais, qui permette de clarifier. Mais, en gros, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les rejets d'Orano... Alors, c'est pour ça que c'était considéré comme étant scandaleux. Les rejets d'Orano ont diminué... assez régulièrement depuis les dernières années. Il faut dire que Orano est effectivement sous pression depuis, en gros, depuis 2009, quand il a commencé à dire « je voudrais augmenter de 50% ma capacité ». Bon, va falloir regarder ça de près. À l'époque, on a fait ce qu'on a pu pour essayer de faire bouger les gens. Il n'y a pas un Narbonnais qui a bougé, bon. On a quand même mis Orano au tribunal parce qu'il avait fait un déversement dans le torrent de fluor et d'uranium. Bon, il était condamné, voilà. Bon, c'est bien.
Le torrent, c'est une rivière.
C'est, enfin, c'est ce qui est juste à côté, oui, autour et qui finit par. Donc voilà. Donc il y a des progrès. Voilà. Si on regarde, il y a des progrès réels. Alors une partie de ces progrès est liée à la modification de l'usine, c'est-à-dire il y a eu gros investissements,
donc des améliorations effectives.
Oui, voilà, il y a clairement eu des améliorations sur l'usine. Enfin bon, il y a 20 ans cette usine, je disais en rigolant à mes copains, on n'est pas au Niger, c'est vrai, mais on est quand même dans le sud de la France. C'est déjà un peu le sud, quoi. Bon, voilà. Aujourd'hui, quand même, bon, voilà, à force de pression, de demande d'autorisation de l'usine, donc de pression de l'État pour qu'elle fasse mieux, etc., il y a des améliorations. Voilà. Après, les deux dernières années, l'usine a travaillé beaucoup moins. Elle n'était pas à pleine puissance. Parce que, d'abord, il y a eu des modifications qu'il fallait finir de faire. Et ensuite, elle envoie son produit au Tricastin, et l'usine est en train de finir de se mettre en route là-bas aussi. Donc du coup, elle n'est pas à pleine puissance. Donc on a fait très attention. C'est ce que j'ai lu dans la presse, et on dit ouais, ça produit, ça je rejette moins parce que elle produit moins. Non, on a évidemment fait très attention de manière rigoureuse
au ratio,
à ce que la comparaison soit faite que sur les années pleines.
Ouais, oui.
C'est-à-dire sur les années où elle était à pleine puissance. Et il n'y a que pour un produit, c'est l'uranium, où la chute spectaculaire est liée à une action qui a été faite en 2017. Donc on s'est dit, si on s'arrête à 2016, on l'aura pas, quoi. Donc on a accepté de prendre un chiffre correspondant à la dernière année connue, où la production a été moitié. Et on a multiplié le chiffre par deux, en disant, si c'était à pleine puissance, il aurait été multiplié par deux. Enfin, l'idée, c'était bien de regarder qu'est-ce qui se passe quand on est à pleine puissance. Oui, il y a des progrès réels. Bon, c'est pas tout à fait... on va pas s'en contenter tout à fait, mais ça peut continuer à s'améliorer. Mais bon, faut quand même reconnaître quand il y a une amélioration, faut aussi la reconnaître. Après, en ayant regardé tout ça, nous, ce qui nous a un peu interpellés, on va dire, c'est quand même, et moi ce qui continue à m'interpeller, hein, mais là j'ai pas encore eu le temps d'aller travailler à fond, c'est quand même les eaux souterraines. Bon. Faut bien comprendre, on a une installation nucléaire de base. Mmh. C'est quoi? C'est les déchets. Alors, c'est des faiblement radioactifs. C'est pas des très faiblement radioactifs, c'est important, mais c'est quand même des faiblement radioactifs. Hein. C'est pas ce qu'on va enterrer à Bure. Hein. Mais ces déchets, en fait, ils sont là depuis 50 ans.
Mmh.
Ils sont là depuis 50 ans à l'air libre. Depuis 50 ans à l'air libre, il y a de l'eau qui percole.
Il y a des infiltrations.
Voilà. Forcément. Et donc, les couches en dessous, Areva me dit, ouais, on peut considérer que 3 mètres d'épaisseur, à peu près, bon, c'est un chiffre, ça peut être plus, ça peut être moins, sont contaminés. Alors, on a une chance inouïe, c'est qu'en dessous, il y a une zone d'argile étanche qui fait que la nappe d'en dessous, qui est la nappe phréatique, la vraie nappe phréatique qui se balade, est pratiquement pas polluée. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne dure que depuis 50 ans. Donc, l'argile, il a 50 ans, il peut tenir quand même, hein, même si on n'y a pas fait un...
Voilà.
Mais c'était 1000 ans, voilà, c'est pas la peine de croire. Hein, là, ça passerait quand même. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, un, depuis que l'autorité de sûreté nucléaire est en place et depuis que c'est une INB, on a quand même mis un mur d'environ 10 mètres de profondeur, qui enserre ces déchets, de manière à ce que ça continue plus. Et maintenant, on va mettre en plus une géomembrane étanche au-dessus, de manière à ce qu'il y ait beaucoup
pour l'air.
Transverse. Voilà. Donc, depuis l'arrivée quand même de l'autorité de sûreté nucléaire, on a des améliorations sur la gestion de ce stock de déchets. Voilà. Mais il faut quand même y faire attention, parce qu'on continue à avoir... Moi, ce qui me soucie là, c'est vraiment les eaux souterraines et le stock de déchets. Parce que là, on va vider deux bassins, les bassins B5 et B6. On va en remettre une partie dans l'installation nucléaire de base, dans une petite cellule au fond. On va en remettre une partie dans un autre bassin qui est vide, qui était B3. Enfin bon, faut regarder ça de très près, quoi. Voilà. Mmh. C'est pas une usine innocente. On n'est pas Céveso seuil haut, c'est-à-dire le plus haut de degré de danger dans l'industrie chimique, et une installation nucléaire de base, en disant c'est rien. Mais bon, voilà, maintenant elle est là, il y a des traces de son existence dans l'environnement, et maintenant il faut à la fois qu'elle continue à s'améliorer et puis qu'on continue à vérifier qu'est-ce qu'on doit nettoyer dans l'environnement.
Alors les polémiques récentes sont nées de ce qu'on appelle TDN, traitement des nitrates,
oui.
Et puis il y en a une autre qui serait née récemment, selon Monsieur Bory, notamment de Rubresus et NVH, il s'agit d'un nouveau projet qui voilà. que ce monsieur conteste fortement.
Alors, donc... Le traitement des nitrates, il s'agit effectivement, on a 250 000 mètres cubes dans 20 hectares de bassins qui se promènent là dans la plaine, hein, qui sont là, voilà. On ne va pas les laisser à vie quand même. Si on les laisse à vie, il y aura un jour une inondation, on nettoiera tout, tout partira par terre, et là on ne le récupérera pas. C'est pas comme des boues, ça partira, voilà. Donc il est clair que faut les traiter. Alors, après, au moment où il y a eu l'enquête publique, nous on était à la fois contents qu'on traite, mais on trouvait que le procédé était vraiment, vraiment pas très bon. Donc on a envoyé une lettre à monsieur le préfet à l'époque, en disant, monsieur le préfet, les alternatives n'ont pas été étudiées. Or, dans, normalement, dans un projet comme ça, il faut des alternatives, donc ce truc n'est pas complet. On vous demande une étude pour les alternatives. Alors, avant de faire l'étude pour les alternatives, le préfet s'est retourné vers Areva et lui a dit, vous avez des alternatives dans la Manche, vous avez fait quelque chose là-dessus? Et Areva a dit, oh ouais, nous on travaille depuis 20 ans. Et ils ont envoyé un document de 80 pages sur tout ce qu'ils ont fait depuis 20 ans. Voilà. Donc ce document, évidemment, on l'a reçu. Il a aussi été envoyé à Roubrésus, donc il a travaillé dessus, etc. Donc, on en est là. Moi, ce que je, parce que je suis effectivement cette usine depuis maintenant 25 ans, quoi. On a le premier document que j'ai retrouvé, c'est 90, 92, oui, c'est ça.
Oui, ça fait
20 ans, voilà. Pour nous, on sait qu'elle recrache, beaucoup de choses, qu'elle a eu des incidents. Enfin, nous, on l'a mis deux fois au tribunal. C'était à chaque fois parce qu'elle avait rejeté des trucs, il avait pas fait attention, il y avait une erreur, etc. Donc, c'est une usine qu'il faut mettre sous surveillance. Mais bon, moi, c'est pas une usine que je qu'on ferme du jour au lendemain en laissant le reste de l'environnement en l'état où il est. Hein. C'est pas possible, ça. Il va falloir que... On a une vraie amélioration sur les déchets, mais les déchets qui sont stockés là dans l'INB, c'est pas un stockage, c'est un entreposage. 30 ans. Avant 2045, il faut qu'Areva ait trouvé un autre moyen de stocker de manière plus pérenne et plus définitive ces déchets. Et bien entendu, ils vont être faits sur place. Il ne faut pas croire qu'on va les envoyer à 10 km. Bon, donc il va falloir être attentif à la manière dont on va les gérer, ceux-là. Donc voilà, donc moi je crois que, si vous voulez, la pollution atmosphérique qui a souvent été mise en avant, c'est pour moi le troisième souci de cette usine. Pour moi, le premier, c'est les déchets, le deuxième, c'est l'eau, et le troisième seulement, la pollution atmosphérique. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu... je trouvais que le combat, il était intéressant de mettre une pression sur Areva, mais le combat était un peu à côté des risques réels.
Et alors, le tout dernier projet NVH...
Alors, NVH, c'est quoi? NVH, c'est, ça s'appelle Nouvelle Voie Humide. C'est vraiment n'importe quoi. Et ça consiste à faire 150 tonnes... Enfin, une première année, 300 tonnes, puis ensuite 150 tonnes d'oxyde d'uranium. Alors, l'oxyde d'uranium, c'est ce que faisait l'usine au début, avant d'être passée au fluor. Au début, elle faisait de l'oxyde d'uranium. Donc, c'est de l'oxyde d'uranium. Voilà, c'est un peu l'équivalent de ce qu'elle produit. Alors, on peut effectivement dire c'est épouvantable, c'est scandaleux, etc. Mais enfin, passer la première année, c'est 150 tonnes. L'autorisation d'Areva... c'est 21 000 tonnes, elle n'en a jamais produit que 13-14 000 au maximum, mais 150 tonnes, c'est 1%.
Oui.
Donc, c'est une autre méthode, on peut regarder de près, faut voir s'il n'y a pas un risque de plus, mais bon, je peux pas considérer... si on avait mis cette usine comme ça pour faire 150 tonnes au milieu d'une prairie, oui bien sûr, on repart à zéro, on fait une étude d'impact, on fait une enquête publique, d'accord. Mais là, je suis... presque d'accord avec l'inspection qui a demandé est-ce qu'il faut faire, est-ce que c'est une modification substantielle, est-ce qu'il faut une étude d'impact. Elle a regardé si les autorisations devaient être augmentées de quelque chose. Aucune autorisation ne doit être augmentée dans les rejets. Donc, donc voilà quoi. Je pense que les gens s'inquiètent pas forcément au bon endroit pour cette usine. Voilà.
Ça sera votre conclusion, donc, Marie Zarditi. Eh bien, merci en tout cas d'être venu d'abord nous expliquer beaucoup de choses. J'espère que ça sera un petit peu plus clair pour les auditeurs que ce qu'on a pu obtenir de polémique et de contradictoire jusqu'ici. Et bien entendu, nous suivrons et avec vous de près cette... la hiérarchie des urgences, en quelque sorte. C'est à ce niveau que ça se situe. Voilà. Merci encore. La semaine prochaine, nous recevrons alors Bruno Parolin, fondateur d'un groupe, l'AREM, sur Lézignan. Alors, on parlait tout à l'heure justement du fait que ce parti a du mal à se structurer sur
LRM.
Sur je n'ai pas retenu le nom.
L'AREM, Bruno Parolin, qui est quelqu'un qui, pour le moment, n'est pas connu, mais qui est en train de fonder, avec d'autres, nous a-t-il dit, ce groupe. Alors, on reviendra sur la politique, peut-être un peu plus politicienne, et sur le Lézignanais. Merci en tout cas d'être resté à notre écoute. Merci Marie Zarditi et à la semaine prochaine.